Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Et bonsoir, bonsoir, nous sommes le 10 mars et c'est Capture Mag Hebdo. Et cette semaine, nous allons parler de Track à Boston de Peter Berg, de Histoire Fantastique ou Amazing Stories pour les anglophones, les anglicistes, ou du Tekel.
De Todd Solondz.
Tout à fait. Vous allez bien, les amis qui m'entourent chaleureusement ce soir.
Ça va David, mais je suis vraiment pas d'accord avec toi quand tu soutiens que les débuts de la réalité augmentée c'était Teletactica. je pense que t'es un peu ambitieux en prétendant.
C'était
un peu
bien
comme ça.
Teletactica. Moi je les collais sur les. Je les avais les trucs.
Je sais bien que tu les avais. tu les mettais sur la gueule de Noël ma mère même. À chaque fois qu'il présentait le journal.
Pour le cacher, parce qu'il était trop laid. Bonsoir Rafik. Bonsoir Stéphane.
Salut David.
Je n'ai pas
de private joke pour toi.
Non mais on a des grandes conversations en off évidemment avant d'enregistrer ces podcasts et c'est toujours passionnant. Et Julien est là, il est revenu quand même.
Bah oui.
Et il est fidèle au poste.
Et oublie Arnaud, hein, Arnaud il pleut.
Et Arnaud, écoute, il reviendra quand il reviendra.
Il a encore raté son avion.
Il a pas pris un train.
Arnaud ne sera pas parmi nous ce soir, mais il est en Bermuda.
D'accord. Et il sirote un pastaga. Bref.
Aussi, ça sent le vécu. Quoi.
De quoi, le pastaga ou le Bermuda?
Le Bermuda.
Ouais, je le vois bien. Je le vois bien. Je le vois très très bien.
Je sens que c'est la dernière fois que Rafik a vu Arnaud. Il était en Bermuda, je pense.
Je sais même plus. Je l'ai vu la semaine dernière. Je sais même plus. À Monaco. Non, je crois qu'il était habillé comme un être civilisé. Je sais plus. Désolé Arnaud, si tu nous écoutes, je t'aime.
D'accord, nous aussi. On l'aime tous d'ailleurs. Bon, allez, c'est parti pour le premier sujet du jour. Je me tourne vers Julien.
Tourne-toi vers moi.
Je lui demande de me parler de Track à Boston. De
attends,
Peter
je me retourne vers toi aussi du coup, ouais.
Sorti en salle il y a deux jours, le 8 mars. Tu l'as vu?
Bah oui, je l'ai vu.
Tu as aimé?
Bah... écoute... non, alors, le truc c'est, je sais pas ce qui s'est débloqué chez moi vis-à-vis de Peter Berg. Alors, je crois que j'ai réussi à faire la part des choses entre ce que le film ambitionne d'être et ce qu'il est vraiment. Et je crois que je prends plus le film pour ce qu'il est vraiment, et ça va. Une fois. Voilà, en gros, quoi. Alors, je trouve ça moins bien que Deepwater Horizon, qui était son précédent, et je trouve que les deux films se ressemblent pas mal, c'est-à-dire qu'il reprend une histoire vraie, et il plaque dessus la structure du film catastrophe, qui est une structure narrative pas si évidente que ça à tenir, je trouve.
Alors Peter Berg on replace hein, parce ouais, que c'est un réalisateur,
c'est vrai,
réalisateur,
c'est un acteur,
réalisateur,
avant,
acteur, producteur, scénariste, voilà, compositeur,
maintenant c'est
américain.
Surtout un réalisateur.
Voilà. Ses films notables, Very Bad Thing.
Oui.
Le Royaume.
Ouais, notablement nul. Hein,
ouais. Le Royaume qui était produit par Michael Mann d'ailleurs si mes souvenirs sont bons.
Hancock.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un détour. Tour vers
le gros
blockbuster crétinoïde.
Battleship.
Voilà.
Et qui est Battleship.
Ouais,
mais moi aussi j'ai le droit de faire des jeux de mots.
Et qui retrouve une espèce de second souffle dans sa carrière, en tout cas au niveau de la. Un peu plus de la reconnaissance critique et puis aussi relativement d'un petit succès public à chaque fois assuré.
Ah bah, il a eu un très gros succès sur Du sang et des larmes.
Avec Du sang et des larmes, mais Deepwater Horizon.
Moins, ça a été un gros budget, ouais.
Ouais, mais ça a pas trop mal marché. Non, alors là, par contre, Track à Boston, c'est sorti ou pas? Je sais pas du
tout. C'est sorti aux États-Unis,
ça a fonctionné ou pas?
Non, pas plus que ça.
Non, mais alors c'est ça en fait. c'est là où je voulais en venir quand je disais qu'il faut faire la part des choses entre ce que le film ambitionne d'être et ce qu'il est vraiment. Le problème, je trouve, de Track à Boston, qui était déjà là, hein, dans Deepwater Horizon. Alors, moi, j'ai pas vu Du sang et des larmes, mais j'imagine que
c'était avec Mark Wahlberg, ouais. Non,
avec Mark Wahlberg, c'est que là il parle en fait d'un événement tragique et récent, c'est les attentats de Boston en fait pendant le marathon.
D'accord.
En 2013.
On voit.
Et c'est fait à la Peter Berg, c'est-à-dire que c'est pas très fin quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que les personnages qui vont mourir ont systématiquement une histoire d'amour avant, les terroristes sont des crétins patentés, enfin ouais, c'est super manichéen, c'est pas du tout fin et je me demande du
alors
coup
que ça
comment...
se prend quand même pour du William Friedkin, ouais, quoi. C'est un peu le problème du truc.
Voilà,
quoi.
Et je me demande surtout, moi, quand j'ai vu le film, je me dis, mais comment les rescapés en fait de l'événement vont appréhender le film en fait. Ça, c'est...
Il y a un chouette casting en tout cas.
C'est
en dehors de
alors voilà, c'est ça le truc, c'est que moi je trouve que, et ça c'était déjà le cas dans Deepwater Horizon, sauf que en plus je trouvais que dans Deepwater Horizon il y avait un vrai pari technologique qui était pas évident à tenir aussi parce que c'est un film qui se passait sur une plateforme pétrolière pendant un incendie, etc.
Oui.
Et c'était super bien
oui,
fait.
Oui, c'était bien fait.
Il y avait des
vrai.
Effets d'ILM assez étonnants et surtout des effets très complexes à faire. Et ça se voyait pas trop, en fait, que c'était, c'est pour le coup, c'était assez fin, quoi, là-dessus. Ça se, l'enjeu technologique,
ah,
en fait.
L'histoire était intéressante. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de.
Moi, je sais que Track à Boston, je l'ai suivi sans déplaisir. Je trouve que le film est plutôt bien rythmé. C'est pas évident compte tenu des événements de l'attentat de Boston. C'est-à-dire que c'est pas un événement justement qui se prête à un vrai film catastrophe. Il y a un truc qui fait que bah c'est un peu des crescendo. Ça va en se resserrant et tout. Et je trouve que le film en pâtit pas trop. Et puis il y a un plaisir comme dans les vrais bons films catastrophes de voir une galerie de
personnages
de comédiens
oui, c'est ça, ouais.
qui sont moi je trouve plutôt bons. Alors le meilleur c'est peut-être Mark Wahlberg, je le trouve même assez touchant dans certaines scènes où il est assez assez cassé et tout. Ça faisait longtemps moi que je l'avais pas vu comme ça en fait, Mark Wahlberg.
Depuis Phénomène, oui.
Ouais. mais il y en a plein, hein. Il y a Kevin Bacon, il y a J.K. Simmons qui est super, il y a donc John Goodman, Kevin Bacon, enfin voilà, et ça aussi moi ça fait partie du plaisir. Donc je vais pas défendre à mort le film, mais je pense que par rapport à Stéphane, je me fais là l'avocat du diable et tout.
Ouais.
Mais je voilà, j'ai pris un tout petit plaisir à ce film pour une seule fois, ça passe.
Moi, le problème, c'est que il y a un, notamment un moment spécifique, en fait, où je me suis vraiment rendu compte qu'on était passé à côté du rendez-vous manqué. C'est-à-dire que, pourquoi pas faire un film sur ce sujet-là?
Je me posais
vraiment la question. J'ai l'impression qu'il y a une scène spécifique, en fait, qu'il a voulu vraiment faire, et qui m'est complètement ratée, à mon sens, qui est le climax du film, hein, qui est une scène, la scène où ils appréhendent l'un des deux terroristes. Et qui est une fusillade en fait qui se passe dans un
j'aime bien cette scène.
C'est à dire que c'est tous les défauts de Peter Berg, c'est la caméra portée filmée n'importe comment en permanence, zéro tension dans la séquence alors que justement tout pouvait l'amener, et surtout t'aurais pu faire une vraie putain de scène d'action un peu comme celle qu'il a essayé de faire dans Le Royaume d'ailleurs, hein, qui est l'attaque sur l'autoroute mais puissance 10 000, parce que là on était sur sur un truc avec des prolos et tout ça, donc ça pouvait vraiment donner un truc fort, quoi. Et pour moi, j'étais en train de me dire, putain, j'aurais aimé cette scène, quoi. Et comme Rafik avec la jeune fille de l'eau, quand il nous en avait parlé dans
l'excellent podcast que vous avez consacré à M. Night Shyamalan.
Voilà.
Je réécoute toutes les semaines, hein, d'ailleurs.
Voilà. Écoute, tu fais bien. Le truc, c'est que j'aurais aimé cette scène, j'aurais aimé en fait que comme Deepwater Horizon, effectivement, quand tu parles de Deepwater Horizon, que tu parles de du feu, moi je savais même pas qu'il y avait du numérique dedans, parce que c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant la façon dont les flammes. Mais j'ai besoin d'un réalisateur derrière qui arrête de faire n'importe quoi avec sa caméra, qui dit à son cadreur tu zoomes, tu dézoomes, tu la portes sur ton épaule, tu fais n'importe quoi. Et tout ça, c'est on verra comment on rattrape ça au montage, quoi. Et sur une scène comme ça, j'aurais aimé quelqu'un qui la met en scène, qui la contrôle. Alors je vais peut-être dire un truc qui va faire qui va contredire pour certaines personnes. J'espère que mon ami Julien me comprendra là. Mais il y a des moments, en fait, ça va peut-être contredire ce que je dis, hein, pour la plupart des gens, mais moi, je pense que c'est à peu près cohérent. J'aurais préféré voir Michael Bay faire ça que 13 heures, quoi. 13 hours, en fait. J'aurais vu Michael Bay faire ce film à aussi bas du front, dans l'absolu, hein, je veux dire, sur la façon de traiter les persos, comment dire. Mais je pense que pour le coup, il aurait réussi cette scène d'action. Vraiment. Je pense qu'il aurait fait une scène, voilà. Comme c'est Michael Bay, on l'aurait un peu, comment dire.
Cassé.
Ouais, forcément, quoi. Mais dans 13 heures, par exemple, c'est 13 hours en français aussi. T'as pareil, une scène d'attaque comme ça avec une bagnole et tout ça. Qui était, ma foi, hyper bien foutu, quoi. Et, parce que le Michael Bay qui découpe n'importe comment, qui fait n'importe quoi, ça fait quand même juste 10 ans qu'il existe plus, ce mec-là. Enfin, à part quand il a plus de scénar vraiment du tout, comme dans Transformers 2. Mais,
quand il t'as le roue libre.
Voilà, mais ça, c'est
même le 3.
Il y a quand même une excellence maintenant, une maîtrise 4, technique et même du découpage qui est là chez Michael Bay, que t'as pas du tout chez Peter Berg. Y compris quand il essaye de faire du Michael Bay comme dans Battleship, quoi. Enfin bref, on s'égare un peu, mais le truc c'est que voilà. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'effectivement, comme tu dis, ça se voudrait être du William Friedkin, ça se voudrait être un grand film, sur un événement politico-social. Ça le traite pas vraiment.
Ça le traite pas, même. Hein.
Voilà, et c'est
je pense
bien...
qu'il vaut mieux même se dire que ça le traite pas. Hein.
Voilà, et puis tu parles du traitement un peu bas du front des terroristes et tout ça, mais c'est le problème de ces films. C'est-à-dire que peut-être que certaines personnes.
Il s'est un peu spécialisé là-dedans, hein, maintenant.
Ouais, mais peut-être.
On a cette impression, en tout cas.
Les gens vont peut-être le rapprocher d'un film comme Vol 93 de Paul Greengrass.
Cette merde.
Voilà, cette merde. Et
propagande.
Voilà, et j'allais revenir sur ce truc-là. Le problème, c'est quand tu te retrouves à faire le film sur le sujet 3 ou 4 ans après, c'est quand même un peu compliqué d'avoir un certain recul, en fait.
Au-delà de toute considération cinéphilique, il y a aussi le problème de faire un film sur un sujet qui reste un sujet complexe dans ses intrications géopolitiques, puisque je rappelle que le gars qui s'est fait arrêter pour l'attentat de Boston continue à plaider son innocence. Donc, moralement, je trouve qu'il y a un problème. Quand quelque chose n'a pas été réglé et résolu au niveau du débat public, je trouve que moralement, c'est un peu douteux de.
Ouais,
de
c'est
faire
clair.
Un film.
Ouais,
voilà, c'est pas ça qui arrête les Américains. Hein.
Non, c'est pas ça qui arrête les Américains. J'ai envie de dire, là récemment, j'ai cru comprendre que, il y a un film qui va se faire sur les attentats du 13 novembre en France. Je suis très très étonné. C'est la première fois pour moi. C'est un truc qu'on regarde
là,
pas
on
du
a
tout.
Les, on a l'identité des assassins.
Ah, on connaît le fameux.
Je suis très étonné que ça se fasse en France.
La famille des mecs qui se sont fait zigouiller ou arrêter pour les attentats de Boston continue à.
Le film
à
est pas fait.
Leur môme comme innocent. Quoi.
Le film est pas fait. Hein.
Non, mais il a été annoncé. C'est un fait rare en France. Hein.
Oui, c'est un fait rare.
Tu vois, enfin.
Et il en va de même donc pour Vol 93, qui pour moi, outre le fait que c'est un film de merde, mais ça c'est du Greengrass, c'est normal. Avait aussi pour lui. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit
non,
du
non,
mal.
Non, j'ai rien dit.
J'ai dit du mal de Noël, ma mère encore.
Bon.
Avait aussi pour lui d'être pour le coup de la pure propagande, puisque une invention complète fictionnelle sur un sujet dont on ne sait rien en fait concrètement.
Ça se base sur
des conversations téléphoniques, quoi, effectivement. Voilà.
Non, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Le truc,
et
c'est
en pleine tempête, c'était pareil. Hein.
Et c'est la raison pour laquelle je ramenais en fait donc la comparaison, mais sous couvert de conceptuellement en termes de mise en scène, on te filme ça caméra à l'épaule, donc c'est réaliste.
Okay.
Voilà, c'était tout ce que en fait j'avais plus ou moins à dire sur le film. Traitons.
Pas grand chose.
Je pense qu'il y a un vrai. Je te dis, il y a un rendez-vous manqué sur cette scène d'action. À mon sens, ça aurait pu être une scène, très forte et très, dans des bonnes mains, très réussies en fait, qui aurait fait date. Et je pense que juste c'est un pétard mouillé, quoi, un peu comme le reste du film. Mais c'est dommage. Mais ce qui fait chier en fait, c'est que. Moi, j'aime bien les prolos au cinéma, ce genre de truc. Donc, j'aurais bien aimé voir un bon film sur, on en parlait un peu à l'époque de Sully. Il y a un peu de ça, voilà. Mais là, c'est vraiment les héros du film.
Ce qu'était Eddie Poitier aussi.
Oui, tout à fait. Bah, t'es content effectivement de voir Kurt Russell, comme t'es content de voir J.K. Simmons là. Tu vois. Après, le problème, c'est que t'as pas de film derrière. C'est t'as pas de mise en scène, t'as rien. Donc, moi, j'ai bien envie
ça y a un peu plus de corps.
Voilà, c'est
bon.
Ça.
Bon, Julien a plutôt tendance à recommander gentiment.
Je sais pas.
Et Stéphane a plutôt tendance à dire qu'il faut attendre de le télécharger.
Je suis responsable aussi politiquement.
Bon, bah écoute, on va passer à un sujet plus réjouissant, alors, à mon avis. Et pour ça, je mets de la musique. Et vous aurez reconnu la magnifique partition de l'ami John Williams pour le thème générique de la série Histoire Fantastique, Amazing Stories, produite par Spielberg dans les années, fin des années 80.
Ah, fin des années 80, 1985, monsieur.
Voilà, mise des années 80.
C'est pas tout à fait la fin.
C'était le début de la fin.
C'est ce qu'on appelle le milieu.
C'est ça. Merci pour cette précision, Rafik.
Donc, Amazing Stories, en fait, qui est né d'un désir
d'avenir
de Spielberg et de certains de ses collègues de retrouver une part d'enfance. Hein. Ce sont des gamins qui avaient grandi devant les Twilight Zone, bien sûr, dans les années 60, et qui restaient encore voilà, fascinés par le souvenir de ces moments de suspension qu'ils avaient eu devant leur poste de télévision.
Tu m'étonnes.
Donc Spielberg, en 1983, va produire le film à sketch Twilight Zone. Avec donc John Landis, Joe Dante et George Miller.
Et un très bon score de Jerry Goldsmith.
Et un excellent, peut-être un des meilleurs scores de Jerry Goldsmith pour ma part. Dont la sortie va être un peu sacrifiée due à pas mal de drames qui ont entouré le film et notamment cet accident tragique qu'il y a eu sur le plateau. Et qui va pas vraiment rencontrer son public malgré une forme d'excellence en tout cas sur les deux derniers sketchs. On se dit que c'est dommage voilà que ce soit
pas dommage. Parce que finalement celui de Spielberg est peut-être le plus faible de tous.
Pour cause, il a probablement réalisé en 8 heures montre en main vu qu'il était pressé de se barrer du territoire des États-Unis pour pas avoir à affronter le shitstorm qui s'abattait sur la production après la mort de Vic Morrow. Donc en tout cas c'est l'explication qui est donnée. On a pas mal discuté entre nous de ce qui s'est passé sur Twilight Zone et effectivement a priori Spielberg voulait adapter un autre sketch qui était The Monsters Are You Out in Maple Street, qui est un des meilleurs épisodes de la série originelle, et il se retrouve à faire Kick the Can. Donc c'était déjà assez chelou. Ouais. Et vu comment le truc est réalisé par-dessus les pieds, on sent vraiment qu'il était pressé de se barrer pour aller, je sais pas moi, se planquer en Alaska le temps que ça se calme, quoi. Enfin, bref.
Et du coup, en Angleterre aussi.
En Angleterre. Oui.
Et du coup, pour Amazing Stories, il va se rattraper.
Alors, donc, voilà, Amazing Stories, on en avait parlé dans l'émission qu'on avait faite sur Scorsese d'Amazing Stories, puisque donc il y avait eu des discussions de Spielberg avec Scorsese et de son désir de faire une série de réalisateurs. Je reviens un petit peu sur la façon avec laquelle Amazing Stories a été accueilli dans les années 80. Notamment par la presse spécialisée autour de la télévision, c'était assez cataclysmique.
Ouais, ouais.
Alors évidemment,
c'est fou, hein, d'ailleurs.
Tout ce qui avait le label Spielberg était mal vu par la critique, mais ça on était habitué. Mais c'était pas vu comme c'était pas vu comme quelque chose qui allait droit dans le mur. Et Amazing Stories, avant même que la série se lance, c'était déjà il va se planter, gna gna gna. Et ça sera caca, ça sera du Spielberg. Et en plus, il va se planter. Pour qui se prend-il, ce monsieur qui croit que la télé lui est acquise, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a tout un monde de la télévision qui s'est braqué sur ce truc.
Ça n'a jamais changé, voilà. D'ailleurs.
Ouais, ouais, bien sûr.
Il est considéré comme un raté à la télévision.
Voilà, ouais, il est blacklisté à la télé, ouais, c'est clair.
Et
en même temps, a raison pour certains de ses projets. Hein.
Mais aussi parce que je pense qu'il arrivait avec un truc que, dans ce milieu-là, on exècre au plus haut point, qui est l'idée de réalisateur, c'est-à-dire de confier à l'auteuring du projet au réa, au cinéaste, alors qu'on considère que ça se fait au cinéma, mais qu'à la télévision, le vrai créateur, c'est le showrunner, c'est le scénariste.
Depuis, les choses ont bien changé quand même.
Tu penses à quoi?
Bah, il y a eu quand même des réalisateurs dans X-Files, dans
Oui, mais X-Files, c'est pas une série qui est attribuée à ses réalisateurs.
Il y a eu.
X-Files n'est pas une série attribuée à ses réalisateurs. Quand on dit X-Files, on dit Chris
oui,
Carter.
Oui, d'accord.
Je suis désolé.
Oui, mais il y a eu des bons réals qui sont passés derrière la caméra.
Mais non, ils restent au statut de technicien. Alors que le principe même de Amazing Stories, qui est donc une série à sketch sur le modèle de Twilight Zone, c'était de confier vraiment l'identité de l'épisode au réalisateur qui allait le soutenir. À l'époque, enfin là la série elle est accueillie par comment il s'appelle ce gars-là, Jeff Jarvis du magazine People, voilà, Amazing Stories est l'une des pires déceptions que j'ai vu de ma vie à la télévision.
Ah ouais, quand même.
Bah oui, parce que voilà, en 1985, si tu veux, le gars, il avait droit à Magnum, il avait droit à Cosby Show, il avait droit à Cheers, il avait droit à
l'agence touriste
Arabesque, il avait droit à Madame est servie, enfin du vrai, toi, de la vraie production value qui tient debout, quoi. Si tu veux.
Calme-toi, Rafik. Calme-toi. Voilà, je te sens énervé.
Et le mec, on lui balance du Clint Eastwood, du Martin Scorsese, du Joe Dante, du Robert Zemeckis, du Steven Spielberg. Enfin, imagine la déception, quoi. Il a dû pleurer sur son canapé. C'est triste. Donc voilà, Amazing Stories. Donc, est une série de cinéastes confiés à certains des grands noms de l'époque. Par exemple, donc, je viens de citer Zemeckis. Je suis étonné que son sketch n'ait jamais vraiment refait surface sur Internet avec le, comment dire, l'amour que les internautes peuvent porter.
Bird aussi.
Je sais que ces gens-là ont travaillé sur la série. Tu sais, je suis en train d'en parler, là. L'amour que les internautes ont,
nerveux, hein,
ont porté à Retour vers le futur, par exemple, ne s'est jamais répercuté sur le sketch que Zemeckis a fait juste après Retour vers le futur avec Christopher Lloyd, qui est Go to the Head of the Class, qui est un sketch que je trouve magnifique et dont vraiment, dont la patte visuelle et rythmique et celle du réalisateur de Retour à la Future. On a les mêmes cadres, ça se passe dans une école, on retrouve quelques-uns des plans qu'on avait déjà vus dans Back to the Future, etc. Avec tout cette espèce de trip nostalgique doudou sur les 80s, c'est fou quelque part que les gens se soient pas retournés vers une série qui est au cœur des années, des voilà, années 80.
Pour le compte, ils vont avoir l'occasion.
Alors donc voilà, ça sort, c'est sorti donc en coffret DVD.
C'est pas possible. À l'époque, c'était pas tourné en HD.
Donc il y avait
Non, mais c'est tourné en pellicule.
C'est tourné en pellicule.
Oui, mais ça a été post-produit en vidéo, en télé, comme beaucoup de séries de l'époque.
Alors la série, donc nous, on l'a pas eu en France et en Europe, je crois pas. Peut-être en Angleterre.
Ah si. On l'a eu très. Il y a eu quelques épisodes.
Oui, très tardivement avec, je crois, une autre.
Attends. Moi, ce que j'ai vu en France, donc c'était une sortie salle dans laquelle il y avait l'épisode plus long de Spielberg qui s'appelle The Mission, qui est pour moi le meilleur de toute la série. Un épisode avec un jeune comédien prometteur qui s'appelait Kevin Costner. Donc,
il y a un plan à la Luma au début.
Voilà, qui est magnifique. Vraiment très, très bel épisode. Qui était suivi donc par Mummy Dearest de William Dear, qui est super chouette aussi. L'histoire d'un comédien qui joue à la momie sur le plateau et qui est appelé parce que sa femme vient d'accoucher et qui a pas le temps de se démaquiller et qui doit donc se rendre à l'hosto et traverser la ville en momie, enfin la campagne en momie, et t'as tous les paysans qui lui tombent sur la gueule parce qu'ils pensent que c'est une vraie. Le troisième sketch, donc c'était celui de Zemeckis. Mais ensuite, on a eu en vidéo dans les vidéoclubs des espèces d'anthologies qui sortaient sous cette forme-là, c'est-à-dire un long métrage reconstitué à partir de trois épisodes de la série.
Il y a eu une diffusion télé en France, j'en suis sûr.
Elle a été tardive.
Ouais. Il y en a une.
Et donc il y avait l'idée de confier ça à des réalisateurs confirmés, donc ceux que j'ai cités, mais je peux rajouter Peter Iams, je crois, mais il y a un épisode de Burt Reynolds quand même. Attention, on faisait pas n'importe quoi à l'époque, mais
il y a eu Patrick Swayze qui a joué dedans.
Donc j'ai déjà cité Martin Scorsese, Irving Kirchner, on a fait
Kevin Reynolds. Burt Reynolds a fait un super film, Anti-Gang. Non mais c'est vrai.
Mais on avait aussi des aspirants réalisateurs qui pouvaient y prétendre, et c'est là où ça devient donc intéressant, puisque ça va révéler quelques noms. Donc effectivement, Brad Bird fait son sketch de Family Dog
extraordinaire.
Voilà, extraordinaire. Fait son sketch d'animation de Family Dog dans le cadre de cette série. Kevin Reynolds, que tu as cité, débute aussi. C'est l'époque où il fait son film avec Kevin Costner.
Non, c'est moi qui ai cité Kevin Reynolds. Moi j'aime bien Waterworld.
Non, mais Kevin Reynolds, je rappelle qu'il a fait La Bête de Guerre quand même, qui est pas.
Ah, c'est clair. Même Fandango,
voilà,
qui sont quand même des films à voir. Paul Michael Glatzer que Stéphane considère, voilà,
mon père spirituel,
Starsky.
Non, mais surtout le réalisateur de.
De Running Man.
Voilà,
ça, c'est vous les fans, moi je suis. Arnold, tout ça, Steven de Souza.
Dans les noms confirmés encore, il y avait aussi Phil Johannou, qui était le réalisateur attitré de U2, qui va faire Les Anges de la Nuit, qui est un film.
State of Grace, ouais. Super film.
Phil Johannou aussi, qui était produit par Spielberg. Comment s'appelait ce film ce Teenage Movie
3 O'Clock High.
Ouais,
3 O'Clock High, oui, tout à fait.
C'était assez incroyable.
3 heures lors du crime.
3 heures lors du crime,
c'est
voilà,
ça, c'est un ça. Truc à la, un peu à la Sam Raimi par moment, d'ailleurs, dans son délire cartoonesque.
Assez étonnant.
Et aussi Bob Balaban, qui va faire une espèce de film d'épouvante intéressant qui s'appelle Parents, Parents en fait, qui va sortir à la fin des années 80.
C'est pas lui qui joue dans Un homme parmi les loups, Bob Balaban?
Il est dans Rencontre du troisième type aussi, qui fait l'interprète.
Et c'est le critique dans La jeune fille de l'eau.
Ah oui, c'est vrai, tout à fait, oui, exactement, oui. Et Danny DeVito, qui pour moi a réalisé une des plus belles comédies de ces 50 dernières années avec La Guerre des Roses, et qui pareil va faire ses débuts avec The Wedding Ring, qui va mener directement à la réalisation de Balance Maman hors du train l'année suivante. Donc voilà, donc on a quand même un beau panel, et je pense, enfin moi je trouve que le pari de Spielberg de faire une série qui soit à la fois l'héritière de Twilight Zone et en même temps une plateforme pour des cinéastes à la télévision à marcher d'une certaine façon, et donc je trouve très injuste le procès qu'on a fait à Histoire Fantastique. Et vraiment, enfin, si vous êtes dans le mood j'ai envie de me replonger dans les années 80 et dans ce qu'elles ont pu produire de, on va dire, un peu de calitoche, quoi, je recommande vivement de vous le jeter sur ce coffret. Tous les sketchs sont pas évidemment tous du même niveau. Peter Iams n'est pas du niveau de Spielberg ou de Scorsese, par exemple.
S'il a fait des trucs très sympas.
Mais voilà, il y a de la production value, il y a de la photo, il y a de la mise en scène.
Ouais. C'est surtout ça, la production value, on n'en voyait pas à ce niveau-là à l'époque.
Ouais,
quoi.
Tout à fait. C'est vraiment pensé comme des petits films, quoi.
Et avec de la belle musique, comme on le signalait au début, un générique entièrement en images de synthèse réalisé par ILM à l'époque,
qui
est une curiosité.
Une curiosité, alors qu'elle a super mal vieilli, évidemment.
Oui, mais c'est 85, mais voilà, à l'époque.
Mais voilà, effectivement, de l'image de synthèse à la télévision. Et en plus, un générique qui voulait dire quelque chose aussi, qui avait un sens thématique.
Magnifique.
Il parlait du désir de raconter des histoires à travers les âges des hommes de la préhistoire jusqu'à la télévision actuelle.
Alors, à signaler que le coffret est sympatoche, il y a 8 DVD, il vaut 50€ sur notre site préféré. Et
c'est un bon éditeur, hein. C'est un petit éditeur, mais qui
alors
essaie de faire les choses
bien. Ils ont surfé sur la vague de la série Netflix.
Stranger Things.
Bah, oui, non, mais je pense ça à la limite. Oui.
En faisant le logo Histoire Fantastique à la Stranger Things, moderniser un peu, parce que c'est vrai qu'il avait un côté 3D des années 80, le logo
il
faut Amazing
rendre
Story,
à César,
qui était pas génial. Mais c'est sympa.
Je pense que c'est un bon réflexe de leur part, parce qu'effectivement, si moi je trouve incompréhensible que cette génération doudoulande qui justement fait des succès à Stranger Things, qui est une pâle, mauvaise et creuse imitation de ce que sont les années 80, je trouve ça bien de piéger le public de Stranger Things pour l'amener à voir ce que c'était réellement
que les
productions entre guillemets Amblin des années 80, parce que basiquement Amazing Stories c'est du Amblin à la télévision,
ils étaient déçus, hein.
Non,
il va être déçu comme l'autre connard dont j'ai lu la réplique tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a de la mise en scène, il y a de la production value, il y a de la musique, il y a des comédiens.
You got triggered.
Non mais
je vais tweeter, mais je vais te shitstormer, tu vas voir.
Commandez à ma Histoire Fantastique l'intégrale de la série, et si vous voulez un autre film des années 80 qui va faire marrer, c'est commander Howard the Duck en Blu-ray, vous verrez, c'est tout aussi
chez les fans films, hein, aussi.
Tout à fait, mais c'est pour ça que
ils sont bien,
c'est fun d'avoir ressorti ça. Bref, merci beaucoup Rafik pour cette recommandation détaillée. Je ne sais pas pourquoi j'ai lancé un jingle, parce que j'avais aussi de la musique.
Mais tu vas la lancer après.
Et je vais la lancer après pour parler du Tekel.
Le Tekel.
Le Tekel, du Le Tekel alors.
Le Tekel.
De Le Tekel.
De Todd Solondz.
Voilà, de Todd Solondz, qui est disponible en DVD depuis le 7 mars.
Le Tekel, c'est quoi? Alors, c'est le dernier film de Todd Solondz, qui est, ma foi, parmi les réalisateurs, parce qu'on n'a pas beaucoup dans notre giron des réalisateurs indépendants comme ça, qu'on aime bien, en fait, et Todd Solondz en fait partie. C'est le réalisateur de Bienvenue dans le Jagras, ça fait quand même une vingtaine d'années maintenant, hein, qu'il officie. Et c'est un cinéaste rare, hein, parce qu'il il fait un film tous les 3, 4 ans, 5 ans même. C'est ça, storytelling. Il a fait Happiness aussi. Et Palindrome.
Ah ouais, c'est lui qui a fait Palindrome. Ouais.
Et c'est des films assez, assez mordants, assez cyniques, assez froids en fait dans leur approche, dans l'approche de leur personnage, qui traitent de sujets. Voilà, Happiness, on parle de pédophilie, on parle de trucs comme ça, donc c'est assez.
Sympa.
C'est assez noir. Là, c'est quand même un peu plus. Alors, je dirais pas que le Tekel est un peu plus léger, mais en gros, le concept du film, c'est un chien, en fait. Le film en anglais s'appelle Winner Dog. Et c'est un chien, en fait, qui traverse l'histoire de quatre famille, personnage en fait qui comment dire en gros c'est un, bah c'est un plus ou moins un film à sketch en fait qui est juste lié au chien. Donc le chien en soi a sa propre petite vie et le morceau en fait de musique que je voulais que tu mettes David c'était ce petit moment en fait cette petite interlude comme ça où le chien en fait se retrouve à se balader dans l'Amérique pour comment dire trouver sa prochaine famille d'accueil. C'est une chanson assez rigolote, tu vois.
Alors, mais attends, parce que j'ai pas vu le film de Todd Solondz, mais il existait une série télévisée avec un chien qui traversait les États-Unis.
Ah, c'est ça la référence.
Ouais. Et le générique, tu te suivais en traveling sur la route.
C'est une référence à ça. Ouais. Je connaissais pas cette référence.
Alors la musique du film a l'air d'être de Mark Sheman,
comment s'appelait cette série
qu'on aime beaucoup avec Rafik.
Mark Sheman, compositeur de South Park, le film, donc
City Slickers.
City Slickers.
Et c'est un film qui est un peu dans. Moi, je retrouve un peu le Todd Solondz d'avant, en fait, celui de comment dire, d'Happiness et de Bienvenue dans Jalingra, pardon.
Ah, je connaissais pas du tout. Moi, je découvre
tout son humour.
Palindrome,
en fait,
je connaissais, mais ça, j'avais pas.
Palindrome, c'est un peu plus noir et grave. Enfin, il y a de l'humour hein, encore, mais voilà. Et là, en fait, je te dis, ça suit plusieurs familles. T'as par exemple, tu sais pas trop comment ça arrive d'ailleurs, c'est un truc un peu bizarre. C'est que tu sais juste que le chien se perd en fait à la fin de chaque segment et se retrouve dans les mains d'un nouveau maître. Il se retrouve par exemple chez à New York, en fait, chez Danny DeVito, qui est un prof de scénario raté à l'université en fait, et qui cherche à faire monter ses projets. Il y a un agent qui l'appelle en permanence et ça marche pas trop quoi. Et en fait il utilise le chien à un moment donné il va utiliser le chien pour commettre un attentat terroriste. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs comme ça, je vous spoil pas trop quoi. C'est pareil, elle se retrouve dans la main de
c'est un film à sketch en fait.
C'est un film à sketch, mais alors le truc c'est que alors quand je dis on retrouve un peu le truc de Bienvenue dans la Jungle, c'est que t'as un sketch qui reprend le personnage de la gamine dans Bienvenue dans la Jungle 20 ans après. Mais en fait c'est pas interprété par la même actrice, je ne me rappelle plus de l'actrice du nom de l'actrice dans Bienvenue dans Jungle, mais dans celui-là c'est Greta Gerwig qui reprend le rôle parce que la précédente actrice ne voulait pas le reprendre quoi. Et en fait c'est une gamine qui avait un crush, Bienvenue dans Jungle, c'est une gamine qui avait un crush sur un garçon de son école, et comme elle était faut le dire un peu hideuse et pas finie quoi, elle était un peu mise de côté quoi, et là en fait elle a un plus ou moins sa revanche avec le personnage quoi. Et le mec c'est devenu un addict un drug addict quoi, un junkie quoi, et malgré tout le fait qu'elle était amoureuse de lui 20 ans auparavant fait qu'elle le suit, et c'est le teckel qui fait en sorte qu'il se retrouve en fait. Voilà, c'est des connexions comme ça. Donc comme je dis, c'est assez ce qu'on retrouve là-dedans, c'est que c'est pas du cynisme de bas étage. Je pense que on avait un peu, on en avait parlé à l'époque, ce truc d'Happiness aussi, cette façon de retrouver des persos qui sont complètement parce que le truc c'est que aujourd'hui c'est un peu plus mélangé la façon d'aborder la comédie entre guillemets névrotique. Judd Apatow est passé par là, il a réussi à remettre intégrer ça dans les gros budgets, hein, dans les gros films, quoi. Et c'était pas trop le cas à l'époque, dans les années 90, quand Todd Solondz a débuté, quoi. Mais pourtant, en fait, je dirais pas que c'est le proto de Judd Apatow sur ça, hein, dans l'absolu, parce qu'il a pas du tout le même sens du rythme. Mais par contre, en fait, c'est surtout
que c'est un vrai fric, en fait. C'est pas un poseur de Sundance, comme il y a eu pas mal de comédies depuis qui jouaient un petit peu de ça, qui regardent de haut leur personnage avec une forme de condescendance bourgeoise. Solondz, il pourrait avoir ces travers-là, mais comme lui, il est de toute façon vraiment fracassé dans sa tête.
Ses films sont fracassés, voilà. C'est vrai que
ça donne des choses. Souvent, hein.
Mais du coup, y a justement, en fait, le truc, c'est comme il n'y a pas cette condescendance, il y a cette façon d'apprécier les personnages, en fait. Et voilà. Et jusque dans le personnage du chien, en fait. Parce que t'as même des moments assez, il se retrouve à un moment donné, il se retrouve chez Ellen Burstyn en fait, qui joue le rôle d'une vieille actrice fatiguée à la Bette Davis en fait, et qui a récupéré le chien, et dont la petite fille vient le voir pour la première fois en 3 ans en fait, pour lui soutirer du pognon en fait pour son pour son amant Black, en fait, qui est un artiste underground qui essaye de se faire financer, de trouver un mécène, quoi. Et évidemment, il se fout de la gueule de ce, comment dire, de la scène underground new-yorkaise avec ça. En même temps, il est assez, encore une fois, il est assez virulent mais attachant. Le chien s'appelle, comme il n'a pas de nom, en fait, puisqu'à chaque fois il débarque chez un nouveau maître, la petite fille lui demande comment t'as appelé le chien, et elle lui dit je l'ai appelé cancer, parce qu'elle a eu ça, c'est comme ça que la petite fille apprend qu'elle a eu un cancer, parce qu'elle n'était pas venue depuis 3-4 ans. Donc t'as plein de moments comme ça, et t'as un moment où cette actrice, en fait, qui est quand même très Ellen Burstyn, en fait, qui a un rôle très aride, en fait, très méchante, en fait, très mégère, en fait, repart sur une des multiples vies qu'elle aurait pu avoir avec ses multiples amants, et elle repense à tout ça, et ça donne comme ça des scènes assez touchantes, en fait, assez, dans laquelle le chien est pas forcément, encore une fois, lié, en fait, il est juste, c'est vraiment l'excuse, en fait, pour connecter ces quatre histoires, quoi. Et voilà, donc, c'est vrai que c'est pas le genre de recommandation qu'on fait d'habitude dans Capture, quoi. Mais je pense que ça serait bien un peu comme on en avait parlé la semaine dernière de Jared S, en fait, de se replonger un peu chez ce type qui pourrait effectivement avoir une espèce de côte, d'artiste comique à la Little Miss Sunshine, d'auteur comique à la Little Miss Sunshine, un peu pédant.
Darjeeling Limited, je sais pas quoi.
Ouais, voilà. Wes Anderson, ouais. Alors que justement, voilà, le mec va un peu plus loin que ces schémas-là, ces clichés-là, et fait des films assez habités, mine de rien.
J'ai retrouvé donc le titre de mon feuilleton qui s'appelait en français tout simplement le Vagabond.
Ah oui.
Qui aux États-Unis s'appelle The Little Hobo.
Voilà. D'accord.
Et qui suit donc un berger allemand sur les routes américaines. Voilà. Avec une espèce de country music.
Bah on est un peu dans le même esprit là. Ouais.
Voilà.
Juste revenir sur l'actrice qui jouait dans Bienvenue dans Jungle, c'était Heather Matarazzo. Qui a fait plein d'autres films, en fait, mais qui a refusé pour le coup de reprendre ce rôle là sans trop s'expliquer, apparemment, mais voilà. Donc Winner Dog en anglais, c'est sorti en DVD, hein, le Tekel.
Ça c'est sorti, c'est sorti, le 7 mars, c'est RP, disponible sur Amazon pour le modique somme de 20€, ce qui est quand même assez cher pour un DVD. C'est un DVD, c'est-à-dire il n'y a pas de Blu-ray. C'est quand même de nos jours avec la facilité.
C'est un film qui a pas trop marché en France, hein, quand il est sorti en octobre dernier.
Je me doute, mais c'est quand même dingue que pour des raisons purement financières, parce qu'on sait que le Blu-ray c'est évidemment plus cher à fabriquer que le DVD, de proposer que le format DVD, c'est un petit peu décevant pour la simple raison qu'aujourd'hui, moi personnellement, si j'ai pas le choix. Sauf s'il y a des raisons techniques, comme on parlait d'Amazing Stories.
Si t'as pas le choix, t'attends que ça passe en HD à la télévision.
C'est ça. Ridicule, et donc, c'est quand même dommage de voir le film dans une résolution qui est
pas
très très loin.
Ça, alors on le sort en cassette audio.
Ouais, c'est ça. Donc là, enfin voilà.
C'est sorti en Blu-ray aux États-Unis en tout cas.
C'est toujours. De toute façon, voir dans les d'autres pays européens. Et nous, parce que je ne sais pour quelle raison. Enfin, si pour des raisons d'économie, qui veulent pas payer leur licence à Sony, qui coûte assez cher, c'est vrai. On fait pas de Blu-ray, alors que on pourrait avoir le film qualité cinéma.
C'est une question
cinéma,
de licence, mais enfin, on va se lancer dans un autre débat.
Oui, c'est bien sûr que c'est une question de licence. Ça coûte moins cher de faire du DVD, évidemment. Mais de nos jours, tu vois, pour moi, c'est un repoussoir que d'acheter du DVD, alors que je sais ce qui existe en Blu-ray. Donc là, je suis en train de regarder vite fait s'il existe le Tekel en VOD, payante, hein, évidemment. Qui existe en VOD.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amuser nos auditeurs pendant que David cherche.
Donc pour 11,99€, vous l'avez en HD sur les sites de VOD que vous utilisez habituellement, que ce soit sur Google, sur QuickTime, enfin sur iTunes, pardon. Voilà. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage aujourd'hui de sortir une nouveauté.
Moi je mets le générique de The Little Hobo
uniquement en DVD. Bref, donc le Tekel recommandé par Stéphane. Très bien, merci. On va s'arrêter là. Moi, j'ai quelques annonces rapides. Là, je vais vous annoncer la prochaine nuit au max, celle que je vous demande de noter dans vos tablettes pour le 13 mai. Donc, c'est pas tout de suite, hein, mais elle est déjà disponible à la vente. C'est une nuit qu'on a appelée l'Amérique de John Carpenter. Et l'Amérique de John Carpenter, ça nous permettra de revoir sur grand écran au Max Linder des chefs-d'œuvre comme Escape from New York.
Chef-d'œuvre.
Invasion Los Angeles en français, Veliv, et Los Angeles 2013.
Chef d'œuvre. Même si vous ne le savez pas, c'est un chef d'œuvre quand même.
Tu sais pas quoi, c'est des DCP, c'est, tu sais, non?
Je sais pas encore. Je crois qu'il y a du DCP pour New York 97. Veliv, il est probable que ce soit le Blu-ray. Et donc j'ai plusieurs sources possibles à ma disposition, car j'ai acheté un certain nombre de Blu-ray de Veliv que j'adore.
Et vraiment, je tiens à remercier le de toute grâce. Les bienfaits du temps, parce que putain, ça fait vraiment plaisir de se souvenir de la projection de la sortie salle de Zeliv, Invasion Los Angeles, en France, avec ses salles vides et ces gens qui ne voulaient absolument pas entendre parler de cette merde. Et aujourd'hui, de voir à quel point le film est devenu encore une fois un classique culte, tout le monde va le voir, tout le monde veut le revoir et tout. Et là, j'espère et je pense que ce sera complet.
J'espère aussi.
Vite. Et voilà, merci le temps de jouer en faveur
même Los Angeles 2013, hein, ça a été un bide en salle à l'époque.
Putain, mais moi je me suis fait insulter dès que j'en parlais, j'ose à peine en parler, les gens me crachent dessus, quoi.
Viens ici,
c'est formidable. Oui, les effets spéciaux sont chiés, on le sait.
On s'en fout, c'est drôle, c'est intelligent, c'est plein de.
Putain, le dernier quart d'heure, c'est juste de la folie.
Exact. Et un score extraordinaire. Alors, on sait que Carpenter est très doué pour faire ses musiques de films, mais il se trouve que dans Los Angeles 2013, il s'est alloué le talent d'une grande compositrice.
Une gonzesse,
voilà. Qui est malheureusement décédé.
Ouais, mais qui faisait du bon boulot.
Et qui faisait un boulot extraordinaire, qui s'appelait Charlie Walker. Voilà. Et je lui rends hommage parce que franchement, c'est une BO que j'ai écoutée en boucle.
Ouais, c'est clair.
Et que je me suis dit, mais putain, cette nana a un talent monstrueux. Et pourquoi on l'entend pas plus? Et voilà. Et
allez, David. Éteins la terre.
J'éteins la terre. Non, je vous annonce, je vous fais une autre annonce.
Ah merde!
Mais pas pour mes nuits au max, mais pour le Max Linder tout court. Et je fais cette annonce pour Julien parce que c'est grâce à Julien, quelque part, que à partir du 22 mars, je crois, Mad Max Fury Road Black and Chrome passera pendant une semaine au Max Linder à toutes les séances.
Ah,
et ça, c'est grâce à toi.
C'est grâce à Julien qui, dans le podcast Capture, a fait un podcast Capture spécial sur Mad Max Black and Chrome en insistant sur le fait que c'était triste et terrible que ce film ne soit pas visible en salle.
Tout à fait. Parce que il m'avait dit, mais fais donc une nuit au max. J'ai suivi son conseil. On a contacté Warner.
Donc c'est grâce à toi.
Bah non, c'est grâce à toi parce que sans toi, j'aurais pas eu cette idée, tu vois.
Mais en fait, c'est grâce à George Miller.
C'est ça. C'est surtout grâce à lui. Et donc on a
surtout
fait.
Surtout que grâce à George Miller va nous renvoyer un message de remerciement certainement quand il apprendra que Julien a fait la promo.
En tout cas, nous on fait la nuit au max Black and Chrome qui arrive là, qui passait, pardon, excusez-moi.
Putain, mais c'est super, voir Black and Chrome au max.
Et
plus,
vu le succès de cette nuit, parce que c'était blindé de monde, la directrice du Max Linder, la programmatrice, s'est dit bon, on peut pas faire autrement que de le passer au moins une semaine.
C'est quand?
C'est à partir du 22.
D'accord. Donc, à la place de John Wick 2, quoi.
À la place, exactement. On va pas avoir John Wick 2, mais on aura Mad Max Fury Road Black and Chrome sur l'écran extraordinaire du Max avec un DCP.
Top.
Vous pouvez pas passer à côté. Voilà, c'était mes annonces avant de rendre l'antenne à
la terre.
Ma mère. Je sais plus. Bref, on va éteindre la terre. On va vous demander avant d'éteindre la terre. D'aller mettre des étoiles.
Oui, avant, noter, parce que c'est vachement important avant d'éteindre la Terre. Parce qu'après éteindre la Terre, ça marchera plus.
Ça marchera
donc
plus.
Donc avant, il faut le faire. Ouais.
Il faut noter, mettre des étoiles, nous laisser des commentaires, nous laisser des petits mots sympathiques aussi, des billets doux, des échanges de tweets, car vous êtes sur Twitter, les amis, vous êtes des stars sur Twitter. Je veux dire, Erjumi, Stéphane S. Moïsakis ou Jules Dup sur Twitter.
Ou capture le Mac tout simplement. Mais alors le truc c'est que si vous voulez vraiment dire du mal de Roland Emmerich, c'est @DavidBerrage.
David Brage. David Brage. Oui, là vous pouvez échanger avec moi sur Roland Emmerich. Je suis intarissable. Et puis bon, évidemment, vous avez le site internet, le creuset, le fondement de toute cette formidable expérience podcastique.
Le monolithe.
Le monolithe, c'est capture. mag.net. Voilà, allez-y, vous y trouverez que du bonheur. Et moi, je vous rends l'antenne et je vais aller me pioter parce qu'il est tard, en fait. On n'a pas l'impression, quand vous nous écoutez, on est en pleine forme, notre voix rayonne à travers les ondes. Mais pourtant, nous sommes très, très fatigués. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, les amis.
Salut, ma belle. Salut.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.